Donc, qu'est-ce que nous essayons de faire dans notre méditation du matin au soir? Donc, nous essayons dans le fond d'être présents. C'est une chose assez étonnante d'une certaine manière. On peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment possible d'être absent? Évidemment, pas absent de la salle de méditation, ça c'est facile, mais être absent de soi-même, puisqu'on essaie d'être présent, donc est-ce qu'on peut vraiment s'absenter de soi-même? Et comment est-ce qu'on arrive à faire ce tour de passe-passe si on le fait? Comme ça, on pourra peut-être quelquefois ne pas le faire. Donc cette question me semble assez intéressante ou essentielle pour la pratique de la méditation. Où est-ce qu'on est quand on est absent? Qu'est-ce que ça veut dire ne pas être présent? Parce que d'une certaine manière, on ne peut rien faire pour être présent. Parce que si on fait quelque chose afin de, dans le but d'être présent, on met ce présent comme une sorte d'objectif, quelque chose qu'on place dans l'anticipation, dans le futur. Et une chose placée au futur, évidemment, ne peut pas être présent avec ceci. Donc dès qu'on fait de la présence une sorte d'objectif, quelque chose qu'on veut atteindre, on le place constamment dans le futur. Alors ça devient très difficile d'être présent. En ayant ceci en tête, avec cette sincérité de vraiment essayer par tous les moyens d'être présent. Je reviens sur cette phrase de Blanchot qui me semble tellement parlante, qui dit présence sur laquelle nous sommes sans pouvoir. Présence sur laquelle nous sommes sans pouvoir. Donc ceci illustre quelque chose d'essentiel dans la pratique de la méditation. On ne peut rien faire pour être présent parce qu'il y a cette intention qui nous place la présence comme objectif, donc qui la place dans le futur. Et si on ne comprend pas un peu ce qu'il y a autour de ceci, alors on va s'efforcer avec encore plus d'énergie pour être présent. Moins on est présent, plus on va faire d'efforts et plus ça sera difficile d'être présent. Donc si présence sur laquelle nous sommes sans pouvoir, alors où est notre pouvoir, notre possibilité? Où est notre liberté? Peut-être que notre pouvoir, notre liberté est sur l'absence, pas sur la présence. C'est-à-dire que nous pouvons nous absenter. Encore faut-il comprendre comment. Et que dans le fond, la présence, elle est là de manière manifeste lorsque nous cessons de nous absenter. Donc notre possibilité de faire quelque chose, de choix, n'est pas tellement sur la présence, mais plutôt sur l'absence. Alors il s'agit de déterminer comment est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on est lorsqu'on est absent. C'est une drôle de question. Où est-ce qu'on est lorsqu'on est absent? Si on posait ça à des personnes qui ne font pas de méditation ou de philosophie autre, ils diraient, mais quelle drôle de question. Qu'est-ce que tu te casses la tête? Qu'est-ce que ça veut bien dire cette question? Où est-ce qu'on est quand on est absent? De leur point de vue, ils auraient évidemment raison. Mais quand même, lorsqu'on pratique la méditation avec cette intention d'être présent, on se rend bien compte que cette question, alors, elle a un sens. On a évoqué cette manière de parler de la conscience que prix Nobel de médecine avait Gérard Edelman, dans un petit livre qui s'appelle Plus vaste que le ciel, où il parle de la conscience, de son point de vue, mais fait une distinction qui est intéressante pour nous. Il parle de deux niveaux de conscience. Il faut faire une distinction de deux niveaux de conscience, conscience primaire et conscience supérieure. Qui la conscience primaire est l'état consistant à être conscient des choses du monde, avoir des images mentales dans le présent. Il dit les humains ne sont pas les seuls à avoir cette capacité. Dans cette conscience primaire, c'est le fait que on peut repérer l'environnement dans lequel on est, on peut découvrir ce qui est utile, nuisible, dangereux et pas dangereux. Donc on comprend bien que dans le fond, tout organisme évolué a besoin de cette capacité à pouvoir se situer dans le monde et savoir reconnaître les différents éléments pour pouvoir vivre. Il n'y a pas de possibilité sans ceci, sans reconnaître ce qui est bon à manger ou ce qui n'est pas bon à manger, par exemple. Comment est-ce que on pourrait fonctionner? Donc la conscience primaire est simplement le fait, dans le fond, de discerner, de reconnaître, comestible, non comestible, dangereux ou pas dangereux, conscience primaire. Et au contraire, la conscience supérieure implique l'aptitude d'être conscient d'être conscient. Elle permet la reconnaissance par le sujet pensant de ses actes et de ses affections, de ses émotions, de ce qu'il agit. Donc là, on est dans quelque chose de différent. Il y a cette distinction entre conscience primaire et supérieure qui est exactement ce qui est en jeu dans notre méditation. Et en général, nous fonctionnons au niveau de la conscience primaire, de reconnaître pour agir, pour dire pour conduire, de Charmey à, je sais pas, à Genève, à Lausanne ou autre. Il faut cette conscience qu'elle fonctionne bien, elle est indispensable, mais d'une certaine manière, elle suffit. Reconnaître les bons chemins, les orientations justes. Et cette conscience supérieure est quelque chose de bien différent. C'est cette aptitude à être conscient d'être conscient. Conscient aussi, non seulement conscient d'être conscient d'une manière générale, mais aussi conscient de ce qui nous affecte, conscient de la tristesse, de l'inquiétude, de l'impatience, de tous ces aspects-là qui vont, selon cette définition, qui accompagnent cette conscience d'être conscient. Donc c'est un niveau plus évolué. Et en ce qui concerne l'être humain, cette conscience d'être conscient, qu'on peut appeler présence ou pleine conscience, c'est quelque chose qui n'est pas acquis. Donc quelque chose qu'on acquiert, je ne sais pas, à 5, 6 ans. Et puis tout d'un coup, ça y est, on a cette capacité. C'est quelque chose d'extrêmement fluctuant. On le sent bien dans la méditation. Quelquefois, il y a cette qualité et quelquefois, elle nous semble inaccessible. On est tellement pris dans ce niveau primaire concerné par des préoccupations ou autre chose. Donc cette conscience d'être conscient, donc qu'on appelle présence ou pleine conscience, c'est pas une manière de s'auto-observer constamment, de dire ah tiens je suis là et je suis en train de faire ceci, je suis en train de faire cela, comme s'il s'agissait de commenter constamment nos activités. Cette conscience d'être conscient, c'est quelque chose qui est immédiat. D'une certaine manière, qui accompagne toute expérience, mais qu'on ne réalise pas. Donne cette citation du philosophe Alain qui disait « Savoir, c'est savoir qu'on sait. » On se rend bien compte que si on ne sait pas qu'on sait quelque chose, ce savoir est comme un non-savoir, il est inutile. Mais là, on voudrait apporter une nuance, c'est savoir, c'est être conscient de savoir. Savoir qu'on sait, ça veut dire qu'on en fait un concept, mais il y a dans une expérience cette conscience aussi de ce qui se passe, qui permet évidemment à ce moment-là de pouvoir enregistrer cette connaissance. Donc il y a comme La nature de la conscience, elle est consciente d'elle-même dans chaque expérience. C'est ce qu'elle fait. Elle ne peut pas ne pas être consciente d'elle-même dans chaque expérience. Mais il y a quelque chose qui nous échappe au niveau de la conscience primaire. Parce que justement, cette conscience supérieure n'est pas dévoilée, n'est pas révélée. Lorsqu'on est perdu, lorsqu'on est absent, on peut se dire, bien, dans nos expériences, on se rend compte, dans la méditation, puisque c'est là qu'on est attentif à ceci, qu'on peut s'absenter. Une manière de s'absenter assez fréquente, c'est d'être perdu dans le passé ou dans le futur. On reconnaît bien d'être perdu dans les souvenirs. Fasciné par les souvenirs, même d'ailleurs quand ils ne sont pas tellement agréables, on peut quand même être pris par ces souvenirs plutôt difficiles. Ou bien on peut se perdre aussi dans le futur, l'anticipation. Imaginez ce qui pourrait arriver, ce qu'on souhaite qu'il va arriver, les événements qui risquent bien de se présenter et qu'on anticipe, peut-être avec joie ou avec crainte. Donc là, on se rend compte qu'on est absent. On est absent parce que on est dans le passé, dans le futur, on n'est pas présent. Ce que, évidemment, on vit très souvent dans la marche, par exemple. Je vous donne une citation ici de Grotowski, donc le metteur en scène polonais, qui disait: normalement, vous n'êtes jamais où vous êtes, parce que dans votre esprit, vous êtes déjà dans le lieu où vous vous rendez. Mais si vous changez de rythme, si vous êtes attentif, quelque chose change, vous commencez à être où vous êtes. Donc là, on a bien ce jeu d'anticipation qui fait qu'on n'est pas où on est. Et tout d'un coup, on laisse tomber cette anticipation parce qu'on a changé le rythme, plus dans quelque chose d'automatique. Et à ce moment-là, on se trouve où on est à chaque instant. Dans le Dhammapada, texte classique de la tradition bouddhique, les plus anciens, il est dit: laisse le passé, laisse le futur, laisse le présent. Alors les deux premiers, on comprend bien, et le troisième, on se dit: mince, moi je croyais qu'il s'agissait d'être présent, maintenant il faut aussi laisser le présent. Donc, qu'est-ce qui va me rester dans cette histoire? On a toujours l'impression que ces choses ont un sens assez facile, et puis dès qu'on commence à les questionner un petit peu, on se rend compte que c'est un petit peu plus subtil, ça demande un petit peu plus. C'est pour ça que cette notion laisse le présent, tout d'un coup, peut nous interroger. Donc s'il s'agit de laisser le présent, d'une certaine manière, c'est que pour se perdre, il n'y a pas que le passé et le futur, on peut aussi se perdre dans le présent. Mais la question est, alors comment est-ce qu'on se perd dans le présent? Parce que dans le passé, dans le futur, ça ne pose pas vraiment de difficulté. Mais comment est-ce qu'on se perd dans le présent? Comment est-ce qu'on se perd si on ne va pas dans les souvenirs ou dans les anticipations? Où est ce lieu de l'absence dans le présent? On peut revenir à la citation d'Edelman, où il disait que voilà ces deux niveaux de conscience, une conscience la conscience primaire qui est consciente des objets, du monde qui nous entoure, et la conscience supérieure qui est conscience de conscience. Alors on peut très bien être dans la situation présente au niveau de cette conscience primaire, c'est-à-dire simplement absorbé, fasciné, accaparé par les objets qui nous entourent. On est fasciné par le monde, dans l'instant présent, le monde qui est là, les montagnes, les arbres derrière moi. Et c'est ce qui nous intéresse, ce n'est pas nous-mêmes, entre guillemets, c'est le monde qui nous entoure. à tel point, on peut être à tel point fasciné par ce monde qui nous entoure, qu'on s'oublie complètement. Donc être perdu dans le présent, c'est lorsque l'on est simplement fasciné par les objets, les perceptions, par exemple, ce qui est vu, ce qui est entendu, goûté, ou par le contenu des pensées aussi. Je pourrais, dans une expérience ici, une certaine sensation corporelle, la juger, l'évaluer, c'est quand même pas mal, c'est assez intense, etc. Et tout d'un coup, me perdre dans cette pensée au sujet de l'expérience, qui fait qu'à ce moment-là, je ne suis pas présent, je suis dans le contenu. Donc, contenu des sens ou aussi dans le contenu de la pensée. Donc, dans cette manière d'être perdu dans le contenu, il n'y a pas de conscience de soi ou conscience de conscience. Il n'y a que conscience du monde. On peut imaginer un joueur d'échecs, il n'est pas distrait, il pense pas ni au passé ni au futur. Bon, l'échec, c'est un peu difficile parce que je pense qu'il doit anticiper les coups. On pourrait prendre quelque chose d'autre. Prendre un joueur de tennis, même si vous allez me dire, il doit aussi anticiper, mais disons, il est vraiment attentif à la position de l'adversaire, à la position de la raquette, à la position de la balle. Il est complètement concentré. Ça ne veut pas dire qu'il est conscient de conscience. Il est parfaitement concentré sur le jeu. Donc toute la concentration sur quelqu'un qui ferait par exemple de la comptabilité, il ne pense pas au passé, au futur. Cette personne est complètement concentrée sur la tâche dans laquelle elle est engagée. Elle est complètement absente. Elle n'est pas consciente de conscience. Elle n'est pas distraite. Elle n'est ni dans le passé ni dans le futur. Elle est absorbée dans le contenu de l'expérience présente. Donc la manière de l'endroit où on peut s'absenter, la manière de se perdre, c'est le même. Même si on fait une distinction entre passé et futur, c'est encore le même processus. C'est toujours, on s'absente dans le contenu de la conscience plutôt que dans la conscience du contenu. Je suis absorbé par ce que je pense, par ce que je vois, par ce que je touche et je goûte, c'est ça qui m'intéresse, même si dans l'expérience, il y a conscience de quelque chose, conscience d'un son, d'une forme, d'une sensation, d'une pensée, d'une image imaginaire ici, il y a conscience de ceci. Donc dans la même expérience, il y a quelque chose dont on est conscient, mais il y a aussi conscience. Donc on peut, si on s'attache au contenu, ce dont on est conscient, à ce moment-là, la conscience consciente d'elle-même, elle est estompée, elle est voilée, parce que toute l'énergie est mise dans ce qui est le contenu de l'expérience. Et le contenu de l'expérience, j'ai parlé des perceptions, le contenu de l'expérience dans la perception, rapidement on le traduit dans un concept. On en fait une idée, si vous voulez, dès qu'il y a une perception, audition, vision, etc. On en fait un concept et c'est ce concept qu'on garde à l'esprit. On n'est même plus dans. On n'est plus dans le vécu immédiat. Je donne un exemple simple. Lorsque vous entrez dans la salle ici de méditation, eh bien, à chaque pas, la vision est différente. L'expérience visuelle est complètement différente. Là, nous voyons la salle à l'envers, vous et moi. Mais on a l'impression que c'est exactement dans la même salle. Et cette salle-là, c'est ce que l'esprit construit sur la base de la perception. On entend quelque chose, immédiatement, la perception est traduite en quelque chose qui a un sens, un concept qu'on peut garder, et ce concept est stable. À ce moment-là, on se perd parce qu'on garde à l'esprit ce qu'on a dans l'esprit, c'est le concept et non plus le vécu lui-même. Maintenant, si je suis complètement conscient dans cette expérience-là que ce n'est pas la salle que j'ai à l'esprit, mais le concept sale. À ce moment-là, je peux être présent. Si je prends un exemple avec l'audition, j'entends quelque chose, les cloches, par exemple, de l'église, eh bien, il y a une expérience qui est simplement cette expérience auditive, assez riche. On a de la peine à, il y a des fluctuations dans le son des cloches, quelque chose de, un timbre particulier, et certainement une, oui, ces fluctuations de l'intensité même. Mais immédiatement, on traduit ceci en connaissance, c'est-à-dire le son de la cloche ou les cloches sonnent. Et c'est ce qu'on garde à l'esprit. Ceci vient se placer au premier plan et on pourrait dire que l'audition, elle a perdu un peu de son importance. Pourquoi? Parce qu'en général, lorsque l'on perçoit, on entend, on voit, etc., ce qui nous intéresse, c'est l'information qu'on peut en retirer. Et cette information, c'est justement le concept. Tiens, voilà, ça sonne, les cloches sonnent, donc ça veut dire qu'il est telle et telle heure, ou bien c'est dimanche, voilà, il y a la messe, etc. Donc ce qui nous intéresse toujours dans la perception, c'est justement d'en tirer un enseignement, une information, et cette information, on la garde et elle se substitue à l'expérience elle-même. Et à ce moment-là, on n'est plus, lorsqu'il y a audition, on n'est plus dans l'audition, on est dans un concept, dans une pensée. Lorsqu'il y a vision, on n'est plus dans la vision, on est dans un concept, dans une pensée. Et là, on n'est pas où on est, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'expérience qu'on croit avoir. Et dans la méditation, on explore ces choses assez subtiles. Maintenant, il y a un aspect très particulier du concept, c'est qu'il est stable. Par exemple, le concept tasse, il ne change pas d'instant en instant. Il est stable. Alors que si je regarde une tasse, eh bien, ça change à chaque instant. La lumière change un petit peu, mes yeux clignent, il y a quelque chose. Donc, cette expérience-là, l'expérience sensorielle, elle change d'instant en instant de manière très rapide. Ceci tient à la nature de la lumière, à la nature des yeux, à la nature du processus de la perception. Or, il y a quelque chose de parfaitement stable dans ma perception de la tasse, c'est justement parce que j'ai substitué un concept qui est parfaitement stable. Ce qui est utilitaire, ce n'est pas un défaut. Mais lorsque dans la méditation, on peut laisser tomber ces concepts, on a reconnu, on ne s'y attache pas, tout d'un coup, le monde apparaît différent parce que le monde apparaît comme changeant d'instant en instant. Il y a quelque chose de fluctuant. Je prends un exemple de l'assise. On vient, on s'assied en méditation. On a une image, voilà, du corps posé ou assis en méditation. Cette image est stable, ce concept est stable. Voilà, je suis assis en méditation ou je suis assis, aussi simple que soit le concept. Et ça ne bouge pas. Ce concept d'être assis en méditation, depuis le premier instant jusqu'au dernier, ne change pas. Et si on est attaché dans l'expérience méditative à ce concept, à ce moment-là, il y a quelque chose de stable, mais qui manque de vie. Alors on dit, ben voilà, d'accord, je sais que je suis, ou je suis conscient que je suis assis en méditation, et puis bon, ben voilà, j'attends. Il n'y a rien d'autre qui pourrait se passer plus intéressant, parce que ça vaut pas le déplacement. Alors que si on ne s'attache pas à cette image, à ce concept, il y a quelque chose de vivant qui change d'instant en instant. Cette conscience sensorielle ici, dans l'assise, elle change d'instant en instant. Toutes les petites vibrations dans certaines zones du corps, même à un niveau plus grossier, physiologique, il y a la respiration, les battements du cœur, beaucoup d'éléments changent. On ne les perçoit pas. Pourquoi? Parce que ce qui vient au premier plan, c'est ce concept ou cette image ici du corps assis en méditation. Donc il y a là, ça veut dire qu'on s'attache à ce moment-là, on reste au niveau de ce que Edelman a appelé la conscience primaire, de connaître quelque chose. Je connais, je sais que je suis assis, C'est bien, mais dans la méditation, ça ne suffit pas. Connaître, ça ne suffit pas. Alors que dans la pensée utilitaire, ça suffit. Dans ce fait de connaître, on s'arrête. On a substitué à l'expérience un concept qui nous va bien, mais ceci manque de vie. Dans la méditation, on va remplacer ce connaître par être conscient. Donc il y a une distinction très claire dans la pratique entre connaître et être conscient. Connaître, c'est basé sur un concept, de constat. Être conscient, c'est être conscient de la conscience de ce qui se passe à chaque instant, c'est être présent. Si je suis conscient d'être assis, je suis là dans cette expérience immédiate de cette assise. Je suis cette assise et non pas simplement j'ai fait un constat, je suis assis. La même chose pour la marche. Je sais que je marche. Traduit quelquefois le Satipatthana Sutra par lorsqu'un méditant ou une méditante marche, il sait qu'il marche ou qu'elle marche. Mais évidemment, ce n'est pas très concluant parce qu'une personne qui marche et qui ne sait pas qu'elle marche, j'espère qu'elle ne vient pas au stage de méditation. Donc savoir ici, c'est savoir, ce n'est pas le bon terme. Mais être conscient, c'est différent. Parce que je peux marcher, je sais que je marche, et par moment je suis conscient, c'est-à-dire présent, là, dans cette présence corporelle, dans le mouvement, cette manière d'être, être en train de marcher. Et puis tout d'un coup, je pense à autre chose. À ce moment-là, cette conscience d'être en train de marcher, elle disparaît. Le savoir n'a pas disparu. Si on vient me demander qu'est-ce que tu fais là, je fais la méditation marchant. Le savoir n'a pas disparu. La conscience, au moment où je suis distrait, elle a disparu. Parce que la conscience, conscience de quelque chose, ici conscience de conscience dans chaque expérience, elle n'est pas saisissable. On ne peut pas la garder. Dommage, hein, parce que ce moment-là, on prendrait un petit bout au début de la retraite, et puis voilà, on le garderait jusqu'à la fin, comme ça on aurait été conscient pendant toute la durée. Mais c'est justement la richesse, c'est qu'on ne peut pas la garder. Puisqu'il s'agit d'être, c'est ce que nous sommes à chaque instant, et d'être pleinement en vie, et ça, on ne peut pas le garder. On ne peut simplement le vivre à chaque instant. Voyez, si on s'imagine faire une assise de 30 minutes ou 45 minutes, une sorte de bloc comme ceci, 30 minutes ou 40 minutes. Mais évidemment, ça c'est un concept. On ne peut pas vivre 30 ou 40 minutes, éprouver 30 ou 40 minutes à chaque instant. Et alors la méditation est lourde, parce que si à chaque instant il faut méditer 45 minutes, c'est très lourd. Mais lorsque dans un instant, on n'a qu'un seul instant à éprouver. Alors ça, c'est beaucoup plus léger. Alors, exprimé en termes d'assises 45 minutes, ça a l'air amusant, mais lorsque j'éprouve une émotion, quelque chose, et que j'en ai fait un concept, un constat, et que dans le fond, je l'éprouve à travers ce concept, alors c'est quelque chose qui s'éprouve dans la durée. Je suis triste. Voilà. Et cette tristesse, ce n'est pas quelque chose qui est là, qui est là à chaque instant. Ce qui fait que je n'aurai qu'à éprouver un seul instant de tristesse à chaque instant, ce qui n'est pas très lourd. J'ai à éprouver la tristesse dans la durée. Et ça devient un fardeau. De même pour l'inquiétude, de même pour toute émotion, pour toute expérience. Le fait de substituer un concept de l'expérience ou de l'émotion ici à l'émotion elle-même, fait que tout d'un coup ça devient un fardeau. C'est la tristesse que j'ai éprouvée, c'est pas cet instant extrêmement bref. Même si le prochain instant, il y a aussi de la tristesse. Mais lorsque je suis dans cette fluidité d'instant en instant, alors rien n'est lourd, rien n'est difficile. Selon la tradition bouddhique, nous ne sommes pas conditionnés par la réalité, mais par nos croyances. Et on est exactement ici dans cette alternative. Lorsque j'éprouve la tristesse à travers la croyance, pas une croyance particulière, mais j'ai fait de la tristesse une croyance, un concept, à ce moment-là, c'est quelque chose qui est lourd, qui dure. Si je peux l'éprouver d'une manière plus intime, dans l'instant, sans l'avoir traduite dans ce concept, à ce moment-là, elle est pas du tout contraignante. Pour dire qu'elle ne m'attriste pas. Ceci pour toute expérience, douleur, somnolence ou autre difficulté. Pour ceci que la manière dont nous conduisons la méditation dans cette présence d'instant en instant, c'est quelque chose d'immensément déconditionnant, où on se rend compte qu'on peut découvrir cette liberté sans devoir régler le compte à la tristesse, à l'inquiétude et autres, mais en les plaçant dans un contexte qui est le contexte de la présence ou de l'instantanéité. En les sortant du contexte de la croyance qui s'est substituée et qui donne cette impression de durée. Et on peut parfois se questionner dans la méditation en se demandant, est-ce que ma méditation s'inscrit dans la durée? Ce qui est la plupart du temps le cas, ce n'est pas une erreur, on explore dans notre pratique pour trouver ceci, mais tant qu'elle s'inscrit dans la durée, ça veut dire que je garde un certain concept de ceci ou de cela. Ça peut être des concepts de différentes choses, de l'assise, de l'émotion, du temps, 45 minutes ou 30 minutes. Et dès qu'on sort la méditation de ce concept, de ce contexte de la temporalité, on se rend compte que quelque chose de complètement différent s'ouvre. Et c'est pas, on n'a pas fait une déconstruction parce qu'on a commencé à analyser ou séparer des choses, c'est simplement parce qu'on reste le plus proche de l'expérience possible. Je reviens à l'exemple du son. Là, j'entends les cloches de l'église, c'est quelque chose d'assez caractéristique, donc il est probable que le concept surgisse. D'accord, j'ai compris, j'ai interprété de manière juste. Mais maintenant, je peux m'intéresser à l'expérience elle-même, cette expérience auditive, et tout d'un coup, je ne suis plus dans l'audition des cloches de l'église qui va durer 2, 3 minutes ou 5 minutes. Je suis là dans cet instant où il y a cette vibration que j'entends. En moi, je ne vais pas là-bas vers le clocher pour essayer d'écouter un peu mieux. Je reste en moi-même. C'est là que surgit cette expérience auditive et qui change d'instant en instant. Donc ce que j'ai fait ici, je me suis rendu disponible à l'expérience auditive de manière plus sensible, plus fine, sans me contenter de ben j'entends les cloches de l'église. Ce qui est nouveau pour du point de vue de la connaissance, ça suffit. Mais du point de vue de la conscience, ça suffit pas, ben, c'est une barrière. On pourrait faire la même chose avec le goût. Le goût, c'est quelque chose aussi d'assez fascinant. On met quelque chose dans la bouche. Alors voilà. On peut avoir des concepts, voilà, bon, mauvais, sucré, salé, mais aussi quelquefois, si j'imagine, je prends une fraise que je mets dans la bouche qui aurait vraiment le goût d'une fraise, eh bien, à ce moment-là, il se peut que j'ai presque une sorte d'image rougeâtre en moi. Et cette image, c'est pas le goût. Sucré, salé, c'est bon, sucré dans le cas de la fraise, j'espère, mais donc là on reste dans quelque chose d'assez vague et tout d'un coup je me dispose à goûter. Alors évidemment, on est pauvre en mots pour le goût, à moins d'être œnologue ou on fait de la poésie, mais là on reste dans l'expérience et tout d'un coup c'est quelque chose de fascinant où le goût se goûte lui-même. Sans s'attacher à une image de l'aliment, sans s'attacher à une évaluation, tout d'un coup on a l'impression que cette expérience du goût nous révèle complètement à nous-mêmes. On est totalement présent à travers cette expérience du goût. Ce n'est pas la fraise qu'on découvre, qui a un intérêt limité, mais c'est soi-même, c'est cette conscience de conscience qui se révèle à travers l'expérience du goût. Quelque chose d'extrêmement étonnant. De même dans l'audition, de même dans toute expérience. Mais le goût, c'est assez intéressant parce que comme le vocabulaire est assez pauvre, il va moins venir s'intercaler. La vision, c'est plus difficile parce qu'on a immédiatement des noms pour chaque chose qu'on voit, mais dans le goût. Donc, où chaque expérience, vous voyez, ici sensorielle, tout d'un coup, exactement est éprouvée comme conscience de conscience dans le contexte du goût, de l'audition, de la vision, de la sensation corporelle, de l'odorat. Et cette rencontre dont j'ai parlé le premier soir, elle se passe totalement là. C'est pas quelque chose que j'ai dû chercher. J'ai l'impression que je prends cette expérience du goût, dans cette expérience du goût, je suis totalement révélé à moi-même dans ma totalité. Ça marche avec d'autres choses qu'avec les fraises d'ailleurs. Pour dire que ça pourrait être très bien, mangeant du chocolat, une glace, enfin je parle de choses qui en général sont attachées au plaisir, eh bien, hein, dans cette expérience-là, il ne s'agit pas de dire non, je ne veux pas manger de chocolat parce que, à ce moment-là, parce que je médite, alors que tout d'un coup, cette expérience-là est la méditation. Quand on comprend un petit peu ce processus, on se rend compte que chaque expérience de la vie quotidienne est cette possibilité de s'éprouver pleinement, d'être dans cette pleine conscience de soi-même à chaque instant, dans l'audition, dans le goût, dans toute expérience, dans la marche, dans l'assise. Tant qu'il y a conscience, c'est-à-dire pas sommeil profond, évanouissement ou autre, il y a toujours cette possibilité. Il y a de la somnolence. Voilà, la somnolence, je me dis, voilà, faudrait que je sois présent, donc il faut que j'élimine la somnolence. Non, la somnolence aussi, c'est une expérience qui révèle la conscience totalement elle-même, comme le goût. Mais si je m'y oppose, si j'y adhère, voilà, je m'intéresse à la somnolence comme si je m'intéresse au son comme étant le son de l'église. Un concept, à ce moment-là, il n'y a plus cette sensibilité. Je fais l'expérience de la somnolence comme manière qu'a la conscience de se révéler elle-même. Et tout d'un coup, la somnolence ne joue plus aucun rôle. Je suis aussi présent dans la somnolence que je le suis dans l'absence de somnolence. Parce que ce n'est pas le contenu ou l'apparence de l'expérience qui m'intéresse ici, mais c'est la conscience de conscience dans cette expérience-là. Ce qu'elle révèle, cette expérience de moi-même, c'est-à-dire la conscience de soi. Il n'y a pas de lieu particulier de la présence. Forme de travers qu'on risque de développer dans la méditation, croyant qu'il y a un lieu particulier qui serait l'abdomen, la poitrine, la respiration. Voilà. Pour être présent, il faut être dans ces lieux-là. Alors, si on est perdu, on revient vite là. Ça peut être judicieux par moment de faire ceci, de revenir dans ces zones qui sont plus simples, mais ça ne veut pas du tout dire qu'il y a un lieu particulier de la présence. Ce qui est intéressant, c'est justement de se dire, dans cette situation-là, où est ma présence? Donner l'exemple. Des groupes, si je suis un peu dans le vague, comme ça, j'imagine au réfectoire, un peu dans le vague, comme ça, je prends conscience que je suis dans le vague, j'ai pas à revenir au corps ou à revenir à la respiration, je peux, dans ce vague-là, être totalement présent. Je suis pas perdu dans ce vague, je suis pas pleinement conscient d'être dans cette expérience-là. De même dans la somnolence, autre chose. Donc, il peut y avoir continuité quand on, au lieu de vouloir revenir à se battre pour revenir toujours au même endroit, on peut se dire, où est-ce qu'est ma présence dans cette situation-là? Je peux éprouver une émotion particulière, de l'irritation, je parle ici de quelque chose de négatif qui ferait que je n'aurais pas vraiment envie de ressentir ceci. Et je pourrais très bien découvrir comment cette irritation, par exemple, aussi révèle la présence. Pas à éliminer l'irritation ou l'agitation pour devenir présent. Quand Maître Mahasi Sayadaw, birman, donc de méditation, disait pourquoi est-ce que nous méditons afin de ne pas saisir. Et c'est ce dont je parle ici. Saisir, c'est conceptualiser l'expérience, c'est en faire quelque chose, c'est ceci, c'est cela. Et ne pas saisir, c'est rester plus proche de l'expérience. Et nous méditons afin de rester plus proche de l'expérience, plus intime avec l'expérience, avec le vécu, c'est-à-dire avec nous-mêmes. On ne change pas l'expérience. On change la manière dont on est dans l'expérience. Pas une négation d'une partie de la vie. C'est une manière d'être situé au cœur de la vie, au cœur de l'expérience elle-même, avant la traduction dans un concept. Ceci ne veut pas dire que parfois dans l'assise, il n'est pas judicieux de revenir à une zone d'ancrage. Tout à fait. Quelquefois, on est trop dissipé et c'est bien de revenir parce qu'à ce moment-là, voilà où est-ce que je suis, on est complètement perdu. Donc, on peut s'appuyer sur ces zones d'ancrage. Mais c'est important de ne pas en faire une sorte de lieu unique de la présence parce qu'à ce moment-là, on met de la confusion. Donc nous sommes toujours, si nous sommes absents, c'est toujours parce que nous sommes dans le contenu, dans l'interprétation de l'expérience. Et si dans la pensée du passé ou du futur nous sommes perdus, c'est parce que nous adhérons au contenu, parce que je suis perdu dans le contenu des souvenirs. Mais si je me rends compte en cet instant-là, maintenant, que surgit un souvenir, je suis totalement présent dans ce souvenir du passé. Si je suis en cet instant conscient que j'anticipe la journée de demain, il y a ici une image qui surgit quant à la journée de demain, des pensées, à ce moment-là, je ne suis pas perdu. Donc je peux aussi être présent dans le passé et dans le futur, comme je peux être absent dans le présent. C'est la même manière de s'absenter. Souvenir, c'est simplement dans l'instant présent, quelque chose qui apparaît, qui a cette apparence, qui donne le sens de quelque chose de passé. L'anticipation, c'est dans cet instant-là, quelque chose qui surgit, qui a cette apparence de quelque chose de futur, mais c'est simplement une pensée maintenant qui a cet aspect particulier, soit du passé, soit du futur, mais qui est dans l'instant. Et si je me perds dans l'histoire par rapport au présent, le jugement, etc., c'est la même manière de se perdre. Et on ne peut pas aller dans le futur pour se perdre, ni dans le passé pour se perdre. Même si on essaye souvent, mais d'ailleurs, c'est jamais totalement convaincant. Si c'était convaincant, on serait dans les difficultés, je crois, parce qu'à ce moment-là, on vivrait notre vie. À 5 ans, c'était super. Donc, c'est la même manière d'être absent, dans le fond. Donc, essayez, par moment, d'explorer cette continuité, plutôt que de dire, je reviens là quand vous vous surprenez à être perdu, de dire, dans le fond, où est-ce que je suis à ce moment-là? Il y a des pensées qui surgissent, je reviens encore, oui, mais là, cette pensée, ce n'est pas un défaut, je ne suis pas nécessairement perdu, je peux aussi être présent dans la pensée. Quelquefois, c'est difficile, c'est même de la confusion, alors je reviens au corps, mais sans poser que la pensée est elle-même un problème, en elle-même un problème. Donc c'est cette pleine conscience, présence, mindfulness, comme on veut l'appeler dans le contexte, on la décrit ici, qui fait qu'on est dans l'instant sans passer par le concept, qu'il y a un potentiel de liberté dans la pratique. Liberté qui ne dépend de rien, si ce n'est que d'avoir cette qualité intime, d'être en intimité avec les vécus qui nous traversent. Voilà, donc je vais laisser un peu de temps pour la méditation en marchant.